Chapitre 7. Hurrah ! Les savants vont vite. Qui veut changer de vieilles lampes pour des neuves ? Aladdin ou la lampe merveilleuse ? Mille et nuits. Le Revald, après un moment, regarda sa montre. Son front s'était réassombri. « Merci, » dit-il avec un froid soupir. « Et cette fois, nous nous quittons. » Un coup de timbre sonna dans l'ombre. « Ah, je vous dirai qu'il est un peu tard, » reprit Edison. « D'après vos premières paroles, j'ai commencé. » Et il donna vivement une tape au phonographe comme à un chien couché à ses pieds. « Eh bien, » aboya celui-ci dans son appareil téléphonique. La voix de basse du messager invisible retentit au milieu du laboratoire avec l'intonation d'un arrivant essoufflé. « Miss Alicia Clary, dans la loge numéro 7, au Grand Théâtre, quitte la salle et prendra l'express de minuit et demi pour Menlo Park, » cria la voix. Le Revald, en entendant ce nom prosférer de cette manière et à cette nouvelle inattendue, fit un mouvement. Les deux hommes se regardaient en silence. Entre eux, désormais, vibrait un vertige, un défi. « C'est que, » dit le Revald, « je n'ai point d'appartement retenu dans Menlo Park pour cette nuit. » Pendant qu'il parlait, Edison avait déjà fait jouer le manipulateur de son appareil morse. Les fils tremblaient. « Un seul instant, » dit-il. Et il appliqua sur le récepteur un carré de papier qui, 10 secondes après, sauta hors du cadre. « L'appartement, dites-vous. Vraiment, c'était prévu. »« En voici un, » s'écria-t-il froidement en lisant ce qui venait de s'empreindre sur la feuille. « Je viens de louer pour vous une villa tout à fait charmante, assez isolée même, à 20 minutes d'ici, et l'on vous y attendra toute la nuit. Vous me restez à souper, n'est-ce pas ? Avec Miss Alicia Clary. » « C'est dit. À l'arrivée du train, pour éviter le temps perdu, mon groom, nanti de cette photographie nouvelle, où n'est reproduit que le visage seul de Miss Venus Victrix, lui offrira ma voiture de votre part et conduira. Nulle erreur, aucun malentendu ne sont à craindre. Il ne descend ici presque personne à cette heure-là. Donc, ne vous inquiétez de rien. » Tout en parlant, il avait extrait un médaillon carte d'un objectif. Il le jeta dans une boîte fixée à la muraille, après avoir enveloppé la carte de 2 lignes tracées à la hâte au crayon. La boîte correspondait au translateur d'un tuyau pneumatique. Une petite sonnerie, tout auprès, annonça que le message était reçu et que l'ordre serait exécuté. Revenant à l'appareil morse, il continua de télégraphier, d'autres ordres sans doute. « C'est fini, » dit-il tout à coup. Puis, observant le Revald, « Milord, » ajouta-t-il, « il va sans dire que, si vous le voulez, nous ne parlerons même plus du projet de tout à l'heure. » Le Revald releva la tête.
Son œil bleu brilla.
« Vraiment, ce serait aussi par trop hésiter, » dit-il simplement. « Cette fois, j'accepte, et d'une façon définitive, mon cher Edison. » Grave, Edison s'inclina. « Bien, » répondit-il, « je compte donc, Milord, que vous me ferez l'honneur de vivre 21 jours, car j'ai une parole, moi aussi. » « Accordé. « Mais pas un de plus, » dit le jeune homme, avec la glaciale et tranquille intonation d'un Anglais qui constate et qui ne reviendra pas sur son appréciation. Edison regarda l'aiguille à seconde de l'horloge électrique. « Je vous offrirai le pistolet, moi-même, à 9 heures du soir, au jour convenu, si je ne vous gagne pas la vie, » dit-il. « À moins que, pour vous détruire, vous ne préfériez recourir à notre récent prisonnier, le vieux Tonnerre. Avec lui, on ne se manque pas. » Puis, se dirigeant vers un téléphone. « Et maintenant, » ajouta l'électricien, « comme nous allons entreprendre, à l'instant même, un voyage assez périlleux, permettez que j'embrasse mes enfants, car les enfants, c'est quelque chose. » À ce dernier mot, si maître de ses émotions que fut le jeune Lord, il tressaillit. Edison avait déjà saisi le cordon du téléphone des draperies et cria « 2 noms dans l'appareil. Là-bas, dans le vent de la nuit, au fond du parc, un coup de cloche, étouffé ici par les tentures, lui répondit. « Many thousand kisses !» annonça paternellement Edison dans l'embouchure de l'instrument, en y envoyant plusieurs baisers. Alors, il se passa quelque chose d'étrange. Autour des deux chercheurs d'inconnus, des deux aventuriers de l'ombre, éclata, de tous côtés, dans la zone lumineuse des lampes, grâce au coup de pouce qu'Edison avait donné à quelques commutateurs, une joie, une pluie de baisers d'enfants charmants qui criaient de leur voix naïve. « Tiens, papa, tiens, papa, encore, encore !»
Edison, choqué contre sa joue, l'embouchure du téléphone,
qui lui apportait ses baisers naïfs. « À présent, mon cher Lord, je suis prêt, dit-il. » « Non, restez, Edison, dit tristement Lorévald. Je suis inutile. Il vaut mieux que, seul, j'affronte s'il est possible. » « Partons, dit l'électricien, le flamboiement du génie, sûr de lui-même, dans les yeux.